Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Bien, cette première phrase est déjà tout un enseignement. Alors fait référence au baptême du Christ qui vient d'avoir lieu et où une voix venue du ciel a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus est rempli de l'Esprit-Saint et c'est ce même Esprit qui l'emmène au désert pour être tenté. « Fut conduit par l'Esprit » signifie « avec l'assistance de l'Esprit ». L'épisode de la tentation de Jésus survient donc immédiatement après son baptême. Il a reçu une grâce spirituelle de son Père et c'est ce moment précis qui est choisi par Dieu pour autoriser la tentation. Dès le commencement de son œuvre divine, le Christ va rencontrer le Satan, le tentateur, le diviseur, qui se montrera l'ennemi de son œuvre divine. Jusqu'à sa mort sur la croix. Nous aussi, souvenons-nous et soyons vigilants. Après chaque grâce spirituelle, le tentateur va venir nous mettre à l'épreuve pour nous fortifier dans notre foi. Et la première grâce spirituelle, c'est notre baptême, où nous avons été oints de l'Esprit-Saint, pour être capable de mener le bon combat spirituel tout au long de notre vie. Par cette onction, Dieu nous donne une force, nous donne une autorité, comme dans l'Ancien Testament où seul le roi, le prêtre et le prophète recevaient l'onction. Le roi recevait ainsi de Dieu l'autorité de régner sur son peuple en tant que roi. Le prêtre recevait de Dieu l'autorité de le servir dans le temple et le prophète l'autorité de proclamer la parole de Dieu avec l'aide et la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de témoins dans le désert et on suppose que Jésus a raconté à ses disciples cette histoire de tentation, peut-être sous forme de parabole, pour leur faire comprendre la difficulté du combat qu'eux aussi auraient à mener. Et nous pouvons aussi nous poser la question, était-il réellement possible que Jésus succombe à cette tentation? Si la réponse est non, alors ce récit n'est plus qu'une fiction, ainsi que le reste de l'Évangile. Jésus cesse d'être le libérateur, le sauveur de l'humanité, aussi bien que notre modèle de combat et de la victoire sur la mort. Mais si la réponse est lui, et oui, alors il embrasse à 100% la réalité de notre nature humaine. Comme nous dit saint Paul dans son épître aux Hébreux, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre le péché. L'humanité créée par Dieu a reçu par amour la liberté de choisir d'être co-créateur avec Dieu ou bien d'essayer de vivre seul. Cette potentialité que nous avons tous de faire mauvais usage de notre liberté est propre à la nature humaine. Et le Christ ayant assumé à 100% notre nature humaine avait aussi cette potentialité, mais qu'il n'a jamais exercée. Cet épisode de la tentation que Jésus a vécu est donc une expérience de notre nature humaine réalisée par Jésus. Pour montrer qu'il est possible de résister aux tentateurs. Et il nous a montré les moyens de mener cette expérience à bonne fin. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces, nous dit l'apôtre Pierre. Là où l'humanité, symbolisée par Adam et Ève, a échoué, là où le peuple d'Israël dans le désert a échoué, Jésus va traverser cette épreuve et en sortir vainqueur. Mais cette épreuve, ce n'est que le prélude de l'épreuve ultime de la croix, dont il sortira aussi définitivement vainqueur par sa résurrection. Le Christ inscrit sa tentation dans la lignée des grands piliers de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, qui eux aussi jeûnèrent 40 jours et 40 nuits pour se préparer dans la solitude et la prière à l'œuvre qu'ils allaient entreprendre pour le Seigneur. Ces exemples bibliques d'un jeûne prolongé ont leur signification religieuse et morale. Ils montrent qu'il est physiquement possible pour l'homme qu'une vie intense de l'esprit en lui l'élève au-dessus de la nature et de ses besoins. Jeûner, c'est préparer notre terre et rompre nos habitudes de consommation mécanique pour entrer dans une attitude de communion et de conversion. À tout instant, l'habilité du tentateur est de semer le doute en nous, en s'appuyant sur les trois angoisses de l'humanité, la mort, la solitude et l'absurdité de la vie. Manger et jouir de la vie pour essayer d'échapper à la mort. Mais la faim ne calme que temporairement cette angoisse. Le pouvoir sur l'autre pour combler notre solitude. Et pourtant, plus nous l'exerçons et plus nous nous sentons seuls. C'est la solitude du pouvoir. Et la possession des biens matériels pour remplir notre vie et lui donner sens. Et c'est une quête incessante pour le toujours plus. Les réponses à ces trois angoisses font l'objet d'un combat dans la conscience de tout être humain. Mais d'une part, par son évangile, le Christ lui dit de renoncer à tout et à lui-même et de suivre Jésus dans la voie de la pauvreté et de l'amour. Et d'autre part, Satan, à travers le monde, l'invite à chercher la satisfaction de ses besoins naturels, de ses désirs égoïstes et de vivre pour lui-même. Lorsque Satan s'adresse au Christ, c'est à nous aussi qu'il s'adresse. La tactique de Satan est de nous amener à utiliser notre nouveau statut spirituel de fils de Dieu reçu au baptême. Si tu es le fils de Dieu, c'est dans le sens de « puisque tu es le fils de Dieu ». Et donc, il nous amène à utiliser notre nouveau statut spirituel pour obtenir des récompenses matérielles et éphémères. Il justifie son action par l'assouvissement de besoins physiques légitimes, comme la faim ou l'envie de montrer ce que l'on croit être nos capacités. Le Christ affirme que la vie de l'homme ne dépend pas seulement de la satisfaction de ses besoins physiques, mais avant tout de la réponse positive à l'invitation de son Père de bâtir avec lui le royaume d'amour, de participer à sa vie divine. Et pour cela, il nous rappelle ce que son Père avait dit au peuple élu. Dans Deutéronome 8, 3, il dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. » Toujours dans le Deutéronome, au chapitre 6, verset 16, « Ne mettez pas le Seigneur, votre Dieu, à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. » Massa, c'est l'endroit où Moïse a frappé le rocher pour en faire jaillir de l'eau. L'homme n'est pas fait que de chair. Il a besoin aussi de nourrir le germe divin qu'il a en lui. Et l'ultime essai de Satan, c'est de nous faire miroiter les possessions terrestres, de nous détourner du royaume et de nous faire croire qu'il est la source de ses biens. Et ici aussi, le Christ se référera à l'Ancien Testament, toujours dans le Deutéronome 6, 13. « C'est l'Éternel ton Dieu que tu respecteras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom, que tu prêteras serment. » Le Christ nous a donné l'exemple de l'impact du jeûne sur l'être humain. Le jeûne nous permet d'aiguiser notre vigilance, de prendre conscience que l'être humain n'est pas qu'un corps sensible fait de chair et d'eau, mais aussi que ce corps est animé d'un esprit qui a besoin d'être nourri. Et cette nourriture, c'est la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est aussi veiller à ce que cette parole fasse partie intégrante de notre vécu quotidien. Alors bon carême à tous, et prenons toujours conscience de la nécessité de nourrir tout notre être, et pas uniquement ce qui est visible et matériel. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen. Thank you.